Ce matin, on va poursuivre notre voyage dans l'Épître aux Galates. Nous lirons les versets, la péricope ce matin, c'est du verset 2 à 5, mais on va lire à partir du verset 1, de 1 à 5. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé, après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous? Le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Alors, le titre de la prédication ce matin, c'est « Quatre questions rhétoriques ». Prions. Père éternel, nous nous plaçons sous ton regard ce matin, sous ta bonne garde, notre Dieu, et te demandons les lumières de l'Esprit-Saint afin que nous puissions saisir et approfondir, Seigneur Dieu, ta parole et que ça puisse être utile dans notre vie, Seigneur, dans notre marche sur cette terre, notre Dieu. Puisses-tu nous aider, Seigneur, à glorifier ton nom par cette parole ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Je suis certain que peu de parents se sont tenus en face de la chambre de leurs ados et qu'ils ont dit, lorsqu'ils ont ouvert la porte, « Quelle messe! » Sur une échelle, pour mettre des niveaux, une échelle de 1 à 10, nous pourrions mettre cela au niveau de soucis ou de préoccupations, mettons au niveau 1. Certainement qu'on ne perdra probablement pas le sommeil pour cela. Mais nous pourrions avoir un degré élevé d'inquiétude ou de préoccupation si nous arrivions à la maison et trouvions que le sous-sol est inondé. Peut-être que le chauffe-eau a rendu l'âme, peut-être qu'il y a eu un refoulement du système d'égout. Quel gâchis! Et sur cette même échelle de 1 à 10, cela pourrait être au niveau 3 ou 4. Mais nous pouvons aller plus haut dans l'échelle, n'est-ce pas, en tant que niveau d'inquiétude ou de préoccupation. Imaginez être pris dans un ouragan, une grosse tempête, des arbres déracinés, des accidents partout. On ne voit pas beaucoup cela en Abitibi, on est assez épargné par cela, mais il y a des régions, on peut arriver dans une région puis que c'est comme ça. Cela pourrait monter le niveau sur la même échelle à 6 ou à 7. Mais il y a quelque chose d'autre que nous pourrions dire qui est un niveau d'inquiétude un peu plus élevé lorsque nous pensons aux catastrophes qui sont plus grandes. Lorsqu'on pense, on entend parler beaucoup de suicides, de tueries dans des écoles, dans différents endroits. Et quand on pense à ce qui est arrivé 9/11 aux États-Unis à New York, c'est plutôt une grande tragédie. Et cela a changé les façons de voyager. Tous ceux qui voyagent par avion ou même par voie terrestre, quand tu arrives aux frontières, c'est là que tu te rends compte que les choses ont vraiment, mais vraiment changé. Ça a basculé. Cela pourrait augmenter le niveau à 8 ou à 9. Mais il y a un niveau plus haut d'inquiétude, d'intérêt, et cela en raison du fait que nous nous déplaçons du royaume physique, le royaume physique, le royaume terrestre, vers le royaume spirituel des choses. Et c'est lorsque nous voyons les vies détruites ou menacées en raison d'une fausse doctrine ou d'un faux évangile. Ça nous arrive tous de parler à des gens qui sont de religion catholique, et on sait les ravages que la doctrine a fait à ce niveau-là. Moi, j'en parle avec des personnes qui sont proches. C'est terrible les ravages que la fausse doctrine fait. Quand tu dis qu'ils se disent, ben là, on est dans la région catholique, ça fait 50-60 ans changer. Mais c'est terrible ce que ça fait sur la pensée de l'homme ou de la femme, cette fausse image de la parole de Dieu, les faux concepts qui y sont véhiculés. Lorsque nous entrons dans l'Épître aux Galates, c'est ce que nous y voyons. Quel gâchis! Un niveau certainement de préoccupation numéro 10. Vous ne pouvez être plus sérieux que ceci. Ces églises étaient sur le point d'imploser spirituellement. Cela explique pourquoi l'apôtre prend sa plume et écrit l'Épître aux Galates. Ces gens s'étaient écartés de Dieu et de l'Évangile, des terroristes spirituels, et s'étaient introduits parmi eux et avaient piraté l'Évangile de Jésus-Christ. Ils enseignaient un autre Évangile, un Évangile différent, un Évangile des œuvres dans toute l'affaire de la justification. La circoncision, disait-il, doit être ajoutée. Galates 2, 3, il nous est dit, des régimes alimentaires doivent être ajoutés. Ça, c'est Galates 2, versets 12 et 13. Où il parle aussi de l'observation des fêtes, des jours de fête dans Galates 4, 10. Ces Galates s'apprêtaient à embarquer sur ce bateau qui était sur le point de couler dans les eaux profondes de l'apostasie. Comment ramenez-vous ces églises sur les bases solides? Comment ramenez-vous les chrétiens sur les bases solides? Comment les préservez-vous de faire naufrage de leur foi? Comment faites-vous pour que le bateau fasse volte-face et retourne sur la bonne voie doctrinale? Eh bien, ce n'est pas si facile, spécialement lorsque les gens impliqués ont été hypnotisés. Comme il nous est dit au verset 1, « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, envoûté? » C'est un mot qui est fort et qui utilise le pronom singulier « qui », suggérant que derrière ceci était le diable lui-même. Le diable est le concepteur ultime de toute fausse religion et de tout faux évangile. Mais pour avoir ces Galates insensés, pour ainsi dire être spirituellement dérangés, mentalement instables, de retour dans le vrai évangile, Paul posera une série de questions. Il commence ici au tout début du chapitre 3 en demandant 5 questions rapides. La question numéro 1 que nous retrouvons au verset 1 et que nous avons vu, vous rappellerez la dernière fois, il questionne leur folie à la lumière de sa prédication en mettant devant eux Christ crucifié et la prédication qui a été dépeinte à vos yeux. Il l'annonçait de la manière la plus simple. Avez-vous oublié ce que vous avez entendu? Il leur rappelle qu'il leur a prêché l'Évangile, mais il continue aussi en leur rappelant quelque chose d'autre. Premièrement, les preuves de l'objet de la prédication de l'Évangile. Deuxièmement, leur expérience subjective de leur conversion. Donc, 4 autres questions va-t-il leur adresser pour les tourmenter et les amener à penser, à réfléchir. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Ces 4 autres questions. Donc, la première, qui est au verset 2, une question concernant le commencement de la vie chrétienne. La deuxième question, qui est au verset 3, une question concernant le fait de commencer et de finir la course chrétienne. Question numéro 3, qui est au verset 4, une question concernant le fait de vivre à l'ombre de la croix. Et la quatrième question, qui est au verset 5, une question concernant le fait de recevoir la riche provision de l'Esprit de don et de grâce. Donc, cette première question que nous entamons Vous devriez vous rappeler, parce que ceci est plutôt une emphase qui a été mise sur le chapitre 1, du chapitre 1 au chapitre 6, Paul a exposé l'évangile de la grâce, se rappelant au chapitre 1, le verset 3, Paul utilise ce mot « grâce ». Et au chapitre 6, les versets 18, il reprend le mot « grâce ».« Chers frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. » Paul savait qu'il ne pouvait expliquer lui-même, expliquer à quelques chrétiens pour ce sujet séparé de ce concept de grâce. Comment ce cœur dur, fier, légaliste, en parlant de Paul, Paul parle de lui-même, devint un prédicateur de l'Évangile de Jésus-Christ? Eh bien, la réponse simple est la grâce. Il mentionne au chapitre 1, le verset 15, qu'il a été appelé par la grâce de Dieu. Il nous est dit, « Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Au chapitre 2 de Galates, le verset 9, il mentionne « La grâce qui m'a été donnée. » Et ceci, c'est dans le contexte de sa rencontre à Jérusalem avec les autres apôtres. Et encore dans Galates 2, 21, il mentionne « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Paul était un homme de grâce. « Je suis ce que je suis, dit-il dans l'Épître aux Corinthiens, par la grâce de Dieu. » Le puritain Thomas Brooke cite « La grâce rend les hommes comme des agneaux et les loups comme des moutons. » Fin de la citation. Paul était un loup, un lion comme un prédateur persécutant l'Église. Et Dieu, dans sa grâce, a transformé ce loup en agneau. De plusieurs manières, c'est le mot clé dans le christianisme, le mot « grâce ». Il ne permet pas de se targuer nous-mêmes parce que la grâce ne coûte rien. Elle est un don, à tout le moins, de notre perspective. Elle a un prix dans la perspective de Dieu. Jésus a tout payé. Il a payé une fois pour toutes dans son sacrifice. Il a bu cette coupe dans son entier. Il n'y a pas de plus grande insulte au Dieu de grâce et dans l'œuvre de Jésus-Christ que lorsque nous cherchons à mélanger les œuvres et la grâce. Et on va s'expliquer là-dessus. C'est ce que les Galates faisaient. Ils cherchaient à mélanger leurs œuvres avec l'œuvre de Christ comme base, comme fondement pour la justification. Et cela explique pourquoi les choses sont un tel gâchis, ils sont dans un tel état, dans un tel mess dans ces églises. Et Paul s'étonne. Est-ce qu'ils ont réellement compris l'Évangile? Est-ce qu'ils ont réellement compris ce qu'ils prêchaient lorsqu'ils mentionnent cela dans Galates 1-3? Mais cela soulève d'autres questions. Et il va maintenant demander ces questions « sondages » entre guillemets, ce qui nous amène à la question numéro 2. Et comment il amène cette question, il souligne son importance par ces mots. Au verset 2, il nous est dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Ou autrement, pour le paraphraser, « Je veux simplement vous demander une chose. » Et la question elle-même est amenée par la manière d'un contraste, d'un opposé. « Est-ce en pratiquant la loi, entre parenthèses, ce qui est par ce que vous faites, ce que vous avez fait, que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi. » C'est ici la première fois que Paul fait référence au Saint-Esprit. Mais si nous poursuivons dans toute l'Épître aux Galates, si nous continuons à lire, vous trouverez qu'il mentionne le Saint-Esprit plusieurs autres fois. Un commentateur suggère que le plus important enseignement du Saint-Esprit, outre celui de Romains, est retrouvé ici dans Galates. Donc, ici, Paul ramène les Galates au moment de leur conversion. Ce premier moment dans le temps et l'espace, c'est ce qu'il a à la pensée lorsqu'il parle du fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il fait référence plutôt à l'expérience initiale de la conversion, ce que quelqu'un a appelé la Pentecôte du pécheur. Et oui, si vous êtes un chrétien, vous avez eu une Pentecôte, une mini-Pentecôte. Vous vous rappellerez ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte. C'était là que le don du Saint-Esprit a été donné à la communauté de la Nouvelle Alliance. Et cela devait maintenant désigner cette nouvelle communauté de la Nouvelle Alliance comme étant les gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un devient un chrétien, il reçoit le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas reçu, vous n'êtes pas un chrétien. Pensez à un don, un cadeau. Quel plus grand don que lorsque Dieu se donne lui-même. Et il se donne à nous deux fois dans l'Évangile, pouvons-nous dire. Il nous a donné Christ et il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le plus grand don que l'homme peut avoir dans ce monde et le don qu'il doit avoir afin de pouvoir entrer au ciel. Nous ne devrions oublier, ici, frères et sœurs, que Jésus lui-même, de tous les dons, il met en évidence le don du Saint-Esprit plus que tous les autres dons. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, verset 13, vous vous rappellerez où Jésus, après qu'il eut enseigné ses disciples concernant la prière, il mentionne le Saint-Esprit. Et je cite, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? » Lorsque Jésus présente le concept de la nouvelle naissance dans Jean 3, il nous laisse savoir que quelqu'un qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Dans Jean 14, 15 et 16, où Jésus, dans le discours de la chambre haute, parle à ses disciples avant d'aller à la croix. Dans Jean 14, 1, ils sont apeurés, ils sont dans un état émotionnel difficile. Jésus leur dit qu'il va être trahi, qu'il doit s'en aller. Et nous voyons comment il tente de les réconforter, de réconforter ses disciples, de les encourager, de les inspirer. Il les enseigne concernant le don du Saint-Esprit. Sept fois, il mentionne le Saint-Esprit dans les versets 16, 17, 26 du chapitre 14 et dans les versets 26, dans le verset 26 du chapitre 15 et dans le verset 28 du chapitre 16. Il parle que l'Esprit va venir, le Consolateur. Et dans le livre des Actes, les premiers chapitres, Vous trouvez cette grande emphase sur l'Esprit, la promesse de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, le don de l'Esprit. Ce sont toutes des choses qui sont mentionnées dans le livre des Actes. Et Paul, ici, dans Galates 3, parlant de l'Esprit, le rend très clair, n'est-ce pas, parce que le fait de recevoir l'Esprit prend place au tout début de la vie et de l'expérience chrétienne. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, voyons ce qu'il dit au verset 2 du chapitre 3. « Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? » Il met en contraste, un devant l'autre, la foi et les œuvres. Il a fait la même chose avant, dans cette même épître, au chapitre 2, le verset 16. Il pose la question, Est-ce que l'Esprit est venu? Avez-vous mérité l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi, en suivant les rituels, les cérémonies, par quelque chose que vous avez fait, ou avez-vous reçu l'Esprit par la foi? Tout comme vous avez reçu Christ par la foi. Et la foi est une grâce que l'on reçoit, n'est-ce pas? La foi n'apporte rien des mérites humains. Elle ne regarde pas à elle-même. Elle regarde hors d'elle-même. La foi regarde à Christ. Et dans Hébreux, il nous a dit de porter nos regards sur Christ, l'auteur de notre foi, et à Christ seul. La foi vient avec les mains vides, la bouche vide. On est tous « Ah ». Cela est parfaitement consistant avec la grâce. Rien dans les mains, j'apporte. Avez-vous reçu l'Esprit comme un don ou comme une récompense? L'avez-vous reçu ou l'avez-vous gagné? Oh, ce n'est pas une question très difficile à répondre. Les Galates le savaient. Et il n'y a qu'une réponse qu'ils pouvaient donner. Nous avons reçu l'Esprit lorsque nous avons cru en Jésus. Il est tout à fait possible que les judaïsants, ces gens qui tentaient d'introduire ce faux évangile et qui avaient infiltré ces églises, qu'ils promettaient une plus grande bénédiction si vous obéissez à la loi et êtes circoncis, et vous pouvez réellement être maintenant spirituel et vivre une vie sainte, Paul leur dit « Baliverne, ô Galates insensés, vous avez reçu l'Esprit au moment où vous avez cru. C'est un don qui vous a été donné. Vous n'avez rien fait pour recevoir cet Esprit. Par son Esprit, il a fait de vous un homme nouveau, une nouvelle création. » C'est par le Saint-Esprit que quelqu'un devient un chrétien. Il y a cet acte initial de la régénération. L'Esprit enlève ce cœur de pierre et implante un cœur de chair. Il dit à ces Galates insensés, « Vous vous conduisez comme le fils prodigue dans Luc 15, qui pensait bêtement qu'il aurait une vie meilleure, une vie plus excitante, aussitôt qu'il sortirait du toit familial. Mais il a fait son bagage et s'en va dans une contrée lointaine, mais sa vie n'a pas été meilleure, n'est-ce pas? Il est tombé dans la tombe, et c'est ce qui arrivait à ces Galates. Il s'en allait dans une tombe spirituelle, dans la tombe spirituellement, parce qu'il avait adopté cette sorte de religion légaliste qui disait que Christ et ce qu'il a fait sur cette croix n'était pas assez en termes de base, de fondement de votre justification. Vous devez ajouter quelque chose de ce que vous faites, à ce que vous faites. Vous devez être circoncis, garder tout ce rituel. Mais ils n'ont obtenu rien de mieux, n'est-ce pas? Non, ils ont été enjôlés, asservis, perte de joie et d'assurance, il s'en allait dans la tombe. Donc, c'est la première question rhétorique. Nous en venons maintenant à la deuxième question rhétorique, le verset 3. Une question concernant le fait de commencer et de finir la course chrétienne. Cette deuxième question rhétorique, pour exposer leur folie, il exerce cette question par une autre question, portant l'attention sur leur folie. Le verset 3. Êtes-vous tellement insensé? Un commentateur apporte la question de cette façon. Êtes-vous devenu complètement fou? Après avoir commencé par l'esprit, la question, allez-vous maintenant finir par la chair? La vie chrétienne commence et finit de la même manière, n'est-ce pas? Elle commence par Christ Elle commence par croire en lui, en recevant son esprit. Elle commence par la foi et continue par la foi et finit par la foi. Elle commence par recevoir l'esprit et ensuite, en marchant et vivant dans l'esprit, elle commence par la grâce et continue par la grâce et finit par la grâce. C'est pas comme une auto-hybride. On entend beaucoup parler d'auto-hybride. Vous commencez par le moteur à essence et à un moment donné, le moteur à essence cesse et le moteur électrique emboîte le pas. La source énergique électrique emboîte le pas. Et ce n'est pas ça le christianisme. Il ne commence pas par la foi. Vous coupez la foi et en cours de route, vous n'avez plus la foi et vous vous rabattez sur les œuvres. En termes de votre justification, ce n'est pas la grâce. C'est la mentalité des œuvres. C'est anti-évangile, c'est anti-Christ, c'est anti-foi, c'est anti-Saint-Esprit. Et remarquez que Paul utilise le mot « chair » ici. Non pas se référant à la chair physique, mais au côté charnel, autosuffisant. Dr. Piper, et je cite, dit « La chair ici n'est pas le physique, mais c'est le vieux « je » avec une lettre majuscule. C'est le moi orgueilleux qui chérit, qui est indépendant, qui est à la recherche de soi. Il dit « Je dois le faire à ma manière. » Fin de la citation. Les Galates avaient commencé riches, mais maintenant ils sont hésitants. Ils ne marchent plus, ils dérapent. Paul sait que s'ils continuent ainsi, ils n'y arriveront pas. Insensés, agissant en insensés, marchant difficilement, étant devenus des observateurs de rituels, se disant que c'est ce que nous devons avoir, pensant que c'est ce que nous avons besoin pour arriver au fil d'arrivée, pour se justifier devant un Dieu saint. Paul leur dit non, vous avez commencé avec Jésus, avec la foi, avec l'Esprit, et vous avez besoin de Christ et de son Esprit et de sa grâce à chaque étape du parcours. Certains pourraient penser, la foi sans les œuvres est morte. Il y a une place pour les œuvres. Certainement que oui. C'est dans le processus de notre sanctification. Nous parlons ici de justification. Ce n'est pas la même chose. Et nos œuvres de sanctification ne deviennent jamais la base de mon acceptation ou pourquoi Dieu m'aime ou pourquoi Dieu me pardonne. Ce ne sont pas les œuvres de ma sanctification qui, de manière ou d'une autre, me méritent le ciel. Ce n'est pas parce que nous allons faire, parce que nous allons penser. D'aucune façon, cela ne dépend de ce que je fais. Jamais nous ne méritons l'acceptation de Dieu. Jamais ce que je fais devient la base ou les mérites pour venir à Dieu et être accepté par Dieu. Vous voyez, Dieu ne m'a pas sauvé de mes péchés, de la damnation et de la condamnation, et ensuite me remettre sur les deux pieds et de dire, tu continues maintenant le reste du chemin. Non, il commence avec Christ, il commence l'œuvre en moi, et il continue cette œuvre, et Dieu va terminer cette œuvre, et tout le long du chemin, mon salut demeure sur ce roc solide. L'œuvre accomplie de Christ. C'est le récit de la croix, c'est le récit de l'Évangile. Ô Galates insensés, ils se sont éloignés de ce rocher de vérité, le seul rocher solide sur lequel je me tiens. Tout autre est du sable mouvant. Ils vont couler vite. Ils ont commencé avec Christ, mais ils pensaient laisser Moïse terminer. Ils ont commencé avec la foi, mais maintenant ils pensaient se reposer en eux, en ajoutant leurs propres œuvres. Ô Galates insensés, vous ne pouvez gagner cette course en dépendant sur la chair. Un légalisme autosuffisant mène à la mort. Vous avez besoin du sang de Christ tout le long du chemin. Nous vainquons par le sang de l'agneau. Vous avez besoin de l'Esprit de Christ tout le long du chemin, de la grâce tout le long du chemin. Il y a un petit paragraphe dans le chant de John Newton en anglais, qui est le chant qui est Amazing Grace. En anglais, ça dit It's this grace that brought me safe thus far. Et traduction, c'est le pardon qui m'a ainsi mis à l'abri. Et ça continue, and grace will lead me home. Et la traduction, et le pardon me guidera chez moi. Paul dit dans Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Cherchant à ramener ces Galates au vrai évangile, Paul lance une série de questions rhétoriques. Une question concernant le commencement de la vie chrétienne. Une question concernant le fait de commencer et de finir la course chrétienne, qui nous amène à la troisième question, qui est le verset 4. Une question concernant le fait de vivre à l'ombre de la croix. Paul fait appel à leur expérience. Chaque chrétien qui croit en Jésus reçoit le Saint-Esprit et tôt ou tard va souffrir pour sa foi. C'est un fait. C'est une chose merveilleuse d'être chrétien. Vous avez reçu l'Esprit, c'est le côté éclatant de la vie chrétienne. Mais il y a un côté sombre, un côté souffrant. Paul enseigne souvent concernant la souffrance dans toutes ses épîtres. Il en fait allusion ici au verset 4. Quelqu'un pourrait poser la question, pourquoi le mentionne-t-il particulièrement ici? Paul veut que les Galates soient des gagnants et non pas des perdants. Et ils sont en danger de perdre lorsqu'ils en viennent à souffrir. Notez comment il l'apporte ici au verset 4. Nous avons le mot grec qui veut dire le mot grec pascho. C'est le mot qui est utilisé pour décrire l'agneau pascal, l'agneau souffrant. Il place ce mot au tout début de la phrase. Avez-vous tant pascho en vain? Avez-vous tant souffert en vain? Dans la version Darby Osterwald. Il n'y a aucune évidence dans l'Épître aux Galates de souffrance de la part des Galates. Cependant, nous savons par le livre des Actes, lorsque Paul et Barnabas sont venus dans ces endroits en Galatie pour prêcher l'Évangile, ils ont souffert. À Iconium, ils sont poursuivis et chassés dans Actes 14, les versets 6 et 19. Ainsi, il est difficile de croire que lorsque ces Galates ont embrassé cet évangile, qu'ils n'ont pas souffert eux-mêmes de certaines façons, parce que le Christ Jésus n'a jamais été très populaire quand le Christ crucifié est prêché. Il est tout à fait possible que ces judaïsants aient mis de la pression sur eux. Ils usaient certainement de quelques tactiques d'intimidation ou menaces pour éloigner les Galates du vrai évangile. Mais Paul leur rappelle ici que si vous vous retirez de Christ et de son évangile de grâce qui libère, eh bien vos souffrances ont été vaines. Si vous ne croyez plus l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile qui justifie, ainsi vous avez souffert pour ce qui est faux. Vous avez cru en sorte à une sorte de conte de fées. Vos souffrances ont été inutiles si le salut peut s'obtenir par le système des œuvres de la loi. Si l'évangile de la grâce de Christ n'est pas vrai, tout est vain. Chaque croix, chaque épreuve est vaine. Il n'accomplit rien. Il n'y a pas de récompense pour cela, pas de bénéfice. Ça n'a aucune valeur. Ce qui nous amène à la question 4, qui est le verset 5. Une question concernant le fait de recevoir la riche provision de l'esprit de don et de grâce. La première question rhétorique, la deuxième, la troisième et la dernière. Paul pose une autre question pénétrante qui va jusqu'au cœur pour secouer les Galates de leur folie. Et nous la retrouvons au verset 5. Et elle fait référence aux évidences des dons spirituels et la grâce dans leur vie. Donc le verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » Il revient sur ce qu'il dit au verset 2, où il a fait le contraste avec les œuvres de la loi et l'écoute avec foi. Les deux vont ensemble. C'est un peu comme un sandwich. Vous avez la tranche de pain au-dessus, la tranche de pain en dessous, et vous avez le stock entre les deux. Ainsi, il fait appel à leur expérience subjective. Il leur dit, « Lorsque vous avez reçu Christ et l'Esprit, vous avez été inondés, vous avez été bénis abondamment, de manière copieuse. Vous aviez le don de l'Esprit qui, ici, peut très bien faire référence aux signes des dons apostoliques qui sont, de nos jours, associés au mouvement charismatique. Les prophéties, le parler en langue, les miracles, il le mentionne ici. Ces dons qui ont marqué les temps apostoliques. Peut-être fait-il aussi référence aux grâces de l'Esprit, les dons et les grâces, c'est la puissance de la présence de l'Esprit. Il fera plus tard référence à ces grâces dans Galates 5, 22 à 23, où on parle du fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Celui qui devient un chrétien, ce panier de fruits est donné à chaque chrétien. Et ces chrétiens galates étaient en première ligne de leur expérience chrétienne, donnant l'évidence et la démonstration de ces grâces. La grâce de l'amour, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. L'amour est une puissante démonstration que vous avez l'Esprit. Lorsque le peuple de Dieu exerce la patience, l'espérance, la foi au milieu des épreuves de la vie, les circonstances et les providences, et qu'il ne rouspète pas, ne murmure pas, c'est une manifestation du fruit de l'Esprit. Rappelez-vous l'Israël de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas l'Esprit corporativement, et lorsqu'ils étaient dans l'épreuve, ils murmuraient. Mais lorsque la nouvelle communauté a l'Esprit, quand ils sont au milieu de leurs épreuves, que devraient-ils faire? Que devraient-ils répondre? Avec joie, une joie indicible, une patience, une espérance. Lorsque les chrétiens démontrent l'amour, la bonté, la gentillesse envers les gens qui sont pauvres spirituellement, les gens qui les calomnient, bien qu'ils répondent avec grâce, avec amabilité, c'est une évidence de l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Ces Galates, vous voyez, avaient reçu cette abondante, riche provision du Saint-Esprit en termes de dons et de grâces. Ainsi, Paul pose la question, est-ce que tous ces dons, toutes ces grâces, comment sont-ils venus vers vous? Les avez-vous gagnés? Les avez-vous mérités? Ou bien sont-ils venus par la prédication de la foi? Par l'entendement? Vous avez premièrement cru en Jésus? Eh bien, la réponse est tout à fait simple. En effet, ils étaient de vrais chrétiens. Ils avaient expérimenté la puissance, la présence de l'Esprit lorsqu'ils ont cru. C'était un don de la grâce. Ô Galates insensés, comment voulez-vous embrasser une religion légaliste lorsque vous avez été si merveilleusement bénis par Dieu? Pourquoi, quand Dieu qui vous a tant donné, pourquoi voulez-vous embrasser cette religion de Christ plus? Cet évangile de circoncision, cela ne vous donne rien. Il vous privera, il va altérer votre âme. Ce sont ainsi les quatre questions rhétoriques que Paul a posées et qu'il a utilisées pour exercer de la pression sur leur conscience. Eh bien, qu'est-ce que cela peut nous dire à nous maintenant? Trois choses. Première, si vous ne regardez qu'à la surface du texte que nous avons lu dans Galates 3, 2 à 5, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, si vous regardez au texte, vous y voyez des questions, n'est-ce pas? Quatre questions. Il y a une intériosité. Là, c'est un mot peut-être que j'ai inventé, parce qu'en anglais, c'est « insight ». C'est comme... J'ai intériosité, je l'ai traduit mot à mot, mettons. Donc, une intériosité très pratique dans ces questions. C'est facile de le remarquer, mais ce ne l'est pas de le mettre en œuvre. Mais en voulant résoudre un problème, et tôt ou tard, vous avez des problèmes dans les relations, la plupart de nos problèmes, d'ailleurs, ceux qui nous prennent, qui viennent nous chercher le plus, sont des problèmes relationnels dans nos églises, dans nos foyers, dans nos familles, entre mari et femme, entre amis, entre parents, entre enfants, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, pasteurs et brebis. Des questions rhétoriques. Pourquoi pose-t-il des questions? Il cherche à ce que les Galates regardent à eux-mêmes, prennent le temps de s'arrêter. Et c'est une approche qui est sage. Les questions peuvent indiquer que nous prenons soin. Quelqu'un a dit qu'un vrai serviteur de Dieu posera des questions. C'est intéressant que lorsque Dieu a cherché Adam et Ève dans le jardin, et il savait certainement combien coupables ils étaient, sans aucun doute que Dieu le savait. Dieu savait, mais il pose des questions. Pourquoi pose-t-il à Adam la question « Où es-tu? » Dieu savait très bien où étaient Adam et Ève. Et Paul pose des questions, non pas parce qu'il n'a pas la réponse, ce sont des questions rhétoriques. Et lorsqu'on pose des questions, celui qui pose une question rhétorique, en principe, il connaît déjà la réponse. Mais il veut amener à une réflexion. Il veut amener à un questionnement. Ce sont des questions pour les Galates. Donc, pourquoi pose-t-il des questions? Il veut qu'ils regardent à leur propre cœur, qu'ils se tiennent devant le miroir. Et il y a du réalisme dans cette approche. Parfois, il faut le dire comme ce l'est. Ô Galates insensés! Mais il poursuit avec des questions. Il veut qu'ils écoutent, qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent. Et si nous pointons seulement le doigt aux gens et les accusons, ils pourraient être très coupables, mais cela n'ira pas plus loin. Ils risquent de se refermer dans le silence. Ils ne penseront pas et vous ne serez pas un instrument de correction et de restauration. Vous voyez, en faisant affaire avec les problèmes des gens, Paul pose des questions. Il veut les amener à penser, à réfléchir, à se dire devant le miroir, à se questionner, à s'interroger. Comment aidez-vous les gens? Eh bien, vous les aidez en leur posant des questions. Vous mettez le focus sur eux-mêmes. Ils doivent penser, réfléchir. Les bonnes questions qui sont sous la bénédiction de Dieu peuvent stimuler leur réflexion de pensée et être utiles dans le processus de restauration. Galates 3, 1 à 5 sert à apprendre à poser la bonne question. Et dans toutes sortes de situations. Sur mon frigidaire, j'ai un petit collant, un magnéto. Ça dit « Où serez-vous pour l'éternité? » Tu sais, tu rencontres quelqu'un, où est-ce que tu vas être? Où tu vas passer l'éternité? Alors, ça, peut-être que ça a l'air bien anodin de même, mais peut-être que la personne, à un moment donné, hop, là, elle, tu sais, dans une circonstance particulière, peut se poser la question. Puis en se posant cette question-là, tu peux amener à une réflexion qui est assez sérieuse et assez profonde, parce que c'est une question d'éternité. Deuxième point d'application, nous apprenons aussi, n'est-ce pas, que nous, en tant que chrétiens, ne pouvons oublier les grandes bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes merveilleusement bénis par Dieu. Nous ne réalisons pas certainement combien nous sommes bénis par Dieu. Et on a lu ce matin Éphésiens 1. Et je pense que ça serait une bonne chose qu'on puisse le relire souvent. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Lorsqu'à nos heures, nous en sommes en doute pour voir combien vous avez été bénis. C'est bien de relire Éphésiens 1. Paul a passé tout ce chapitre a énuméré les grandes bénédictions trouvées en Christ. Lisez Romains 4, Romains 5, 6, 7 et 8. Lisez Galates 3. Il vous a donné l'Esprit, le Saint-Esprit. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Du moment où vous avez cru, selon les Écritures, le Saint-Esprit régénère. Tite 3, 5. Jean 3. Selon les Écritures, l'Esprit nous rend aptes, nous rend capables. 2 Timothée 1, 7. Selon les Écritures, l'Esprit sanctifie. Galates 5. L'Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous est dit dans Romains 5, 5. Le Saint-Esprit fait grâce aux pécheurs et leur donne des dons. 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Romains 8. Et nous rend capables de crier « Abba, Père ». Galates 4, 6. Nous avons l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit. Quelquefois, cela peut paraître simple, mais nous avons besoin d'être rappelés constamment que nous avons l'Esprit. Troisième point d'application. Nous apprenons que la chose la plus difficile que nous aurons à combattre, c'est la bataille du légalisme. La mentalité de la justice des œuvres qui dit que nous devons mettre notre confiance en ce que nous faisons. mettre notre confiance dans les œuvres de la loi, ou que nous devons ajouter quelque chose à ce que Jésus a fait, que ce que Jésus a fait n'est pas assez. La mentalité de la performance, et on connaît tout cela dans notre, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont travaillé, c'est ce que nous vivons. Nous n'aurons pas de succès si nous ne performons pas. Mais le légalisme n'a pas de place. La mentalité de performance n'a pas de place lorsqu'on en vient à notre justification. Le légalisme a été décrit comme l'un des instincts humains que nous retrouvons largement dans chaque cœur, dans notre propre cœur. C'est pourquoi les chrétiens peuvent vivre avec une fausse culpabilité et ne jamais sentir qu'ils ont été pardonnés. Parce que des chrétiens peuvent être accablés par des péchés passés, ils peuvent être extropiés, boiteux dans leur marche. Pourquoi ils peuvent croire que Dieu peut les approuver lorsqu'ils ont des dévotions fidèles, mais lorsqu'ils n'en ont pas, ils ne sont pas approuvés par Dieu. Cela explique pourquoi ils peuvent vivre à longueur de journée avec cette notion boiteuse que Dieu est continuellement désappointé d'eux. Eh bien, mon ami, tu n'as pas embrassé la justification dans le cœur. Pourquoi tant de chrétiens luttent avec le sens profond que Dieu n'est jamais content de moi? Et ils ne sont jamais à la hauteur. Eh bien, la vérité est qu'aucun d'entre nous n'est à la hauteur en nous-mêmes. Et même dans nos meilleures actions, nos plus hauts pics qu'on peut avoir, nous ne sommes pas à la hauteur. Et c'est pourquoi Spurgeon, le puritain Charles Spurgeon, disait « Nous devons nous repentir de notre repentance. » Mais si nous sommes en Christ, il n'y a pas de condamnation. En Christ, nous avons une parfaite justice. Nous sommes à la hauteur parfaitement en Christ. Est-ce que vous croyez cela? Il est difficile à croire que toute la vie, du commencement à la fin, est une vie de grâce. Elle commence par la grâce. Elle continue par la grâce. On chemine par la grâce. Elle finit par la grâce. Chaque don est un don de grâce. La repentance est grâce. La foi est grâce. La persévérance est grâce. Et les bonnes choses que je fais est une œuvre de la grâce. Il est si difficile pour nous de croire cela que nous devons faire quelque chose pour gagner notre chemin jusqu'au ciel. Cette mentalité de la performance avec laquelle nous luttons tous. Nous pouvons si facilement se retrancher dans le légalisme. Il est facile d'y retomber. Et c'est à se demander si nous l'avons déjà quitté quelque part. Luther a dit, et je cite, « Je ne peux moi-même y parvenir que par la grâce seulement, et bien que cela soit hautement nécessaire. » La grâce seulement à chaque étape du chemin. Lorsque nous nous tiendrons au ciel, frères et sœurs, est-ce que cette pensée traversera votre esprit? Je suis ici en raison de ce que j'ai fait. Je suis ici parce que j'ai eu une vie de dévotion fidèle. Je suis ici parce que mon habillement a été modeste dimanche après dimanche. Je suis ici parce que j'ai été un bon père. Je suis ici parce que je n'ai jamais commis l'adultère. Je suis ici parce que je n'ai jamais été piégé, enjôlé par la pornographie, par la drogue. Je suis ici parce que j'ai été une mère généreuse. Je suis ici parce que je n'ai jamais pris de drogue, de boisson. Je suis ici parce que nous avions des dévotions familiales fidèles. Je suis ici parce que j'ai lu ma Bible à tous les jours. Non. Vous êtes là par grâce et par Christ seul. C'est la base de votre sanctification. Et Dieu ne vous aime pas plus. Il peut ne pas prendre plaisir en vous autant. Mais il ne vous aime pas plus que lorsque vous aviez une bonne journée dévotionnelle ou une mauvaise. Vous êtes aussi accepté en Christ que lorsque vous avez cru. Cela ne change jamais. Ainsi, lorsque vous serez au ciel, devinez en qui vous vous glorifierez. Non pas en vous-même, non pas en ce que vous avez fait, mais en Christ et en Christ seul. Merci Jésus pour ton sang qui me purifie de tout péché et pour ta justice que tu as gagnée, que tu t'es acquérie. Cette justice parfaite qui m'a été donnée lorsque j'ai cru en Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tes grandes vérités de ta parole, Seigneur. Tes vérités qui est absolue, Seigneur, qui ne changent pas. Et que tout est par grâce du début à la fin, Seigneur. Nous ne sommes absolument rien, Seigneur, sans toi. Merci, Seigneur, de nous supporter, de nous endurer. Merci, Seigneur, de ce que ta parole nous édifie, nous enseigne, Seigneur, concernant ta personne. Dans le nom de Jésus. Amen.